Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55 pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Anaël Pigeat et Éric Loré se font face à notre affiche Monumenta 2016, Empire de Wang Yongping au Grand Palais et chef-d'œuvre de Budapest au Musée du Luxembourg à Paris. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'exposition de Sylvie Blocher, Les mots qui manquent au Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis et Pénélope, un film de Jacques Villeglé et Raymond Hinz à la Galerie Valois. Oui, nous sommes mardi, nous parlons d'art plastique puisque c'est demain que nous parlerons de cinéma très exceptionnellement, ouverture du Festival de Cannes oblige. Et pour profiter de l'avant-Cannes, profitez bien de la dernière revue de presse culturelle quotidienne de la dispute par Antoine Guillot, avant la prochaine qui sera dans un peu moins de deux semaines. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film L'Ange blessé d'Emir Baygazine qui sort demain sur les écrans et dont nous parlerons demain soir dans la dispute. Enfin, nous avons rendez-vous avec le chorégraphe et directeur du Musée de la danse, Boris Charmatz, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec la 7e édition de Monumenta, cette commande passée à un artiste d'occuper la grande nef du Grand Palais à Paris. Après Anselm Kiefer, Richard Serra, Christian Boltanski, Anish Kapoor et les Kabakov, c'est l'artiste chinois résident en France Wang Yongping qui a relevé le défi et son galeriste Kamel Monour avec lui. Jean de Loisy, le commissaire de cette exposition, sous le titre Empire au pluriel, Wang Yongping fait se rencontrer 305 containers, un bicorne XXXXXXXL et un serpent de 254 mètres de long. Voilà, un peu de musique pour faire plaisir à Antoine Guillot et pour évoquer un empire, puisque d'empire, il est question, mais alors de quelle façon? Nous allons le savoir selon Anaël Pigeat, tout de suite. Qu'est-ce que sont ces empires de Wang Yongping?
Il y a trois empires. Il y a l'empire politique, il y a l'empire économique, il y a l'empire... Non, je ne sais plus quel est le troisième.
Ah, justement, c'est ça la question. L'empire mythique, mythologique.
L'empire mythique, l'empire mythologique.
Le serpent.
Je crois qu'il faut en fait oublier tous les discours d'urgence. cette Monumenta est vraiment très spectaculaire. Elle est probablement, à mes yeux en tout cas, après celle de Richard Serra, la plus réussie. Et en même temps, je trouve qu'elle suscite un sentiment un peu, en tout cas, elle a suscité chez moi un sentiment un peu ambivalent devant ce spectaculaire, devant cette dimension spectaculaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment devant une sorte d'énorme machine, formidablement efficace, sur laquelle sont plaquées, enfin pas plaquées d'ailleurs, sur laquelle sont accrochées beaucoup de propos, beaucoup de références. Il y a un des textes que je lisais qui est publié par le Grand Palais qui parlait de critiquer le spectaculaire avec le spectaculaire. Honnêtement, je vois le spectaculaire, je vois pas la critique du spectaculaire. Mais bon, peut-être qu'il faut un peu raconter comment se présente la chose, parce que on arrive, elle est formellement très réussie. On arrive par le grand côté du Grand Palais devant un mur de containers.
Alors les containers qu'on voit sur les paquebots qui transportent toutes sortes de marchandises à travers le monde.
Multicolores, parés de toutes sortes d'inscriptions dans lesquelles on peut voir un certain nombre de jeux de mots éventuellement. On nous parle de capitale. On voit en tout cas une géographie du monde très large qui va de l'Asie aux États-Unis en passant par le Golfe, des pays arabes, l'Europe aussi. On passe ensuite dans un passage très étroit dont l'artiste nous dit que c'est un passage qui rappelle les passages étroits de la nature. On va comprendre très vite que le rapport au paysage est évident. En l'occurrence, au paysage de l'âme chinois dans lequel le spectateur se promène, prend une rivière, fait un petit coup de toboggan sur la rivière et passe d'une colline à l'autre. Et c'est à peu près ce qui se passe une fois qu'on a franchi ce petit passage étroit. On se retourne et là, on voit un énorme serpent, un énorme animal qui ressemble aussi un peu à un roller coaster d'une manière assez troublante. Mais peut-être que là, il y a une forme de critique de l'artiste, assurément même. En tout cas, on se trouve sous les côtes de cet énorme animal qui donne une image à la fois très imposante et en même temps, il est vrai, une image d'une certaine fragilité puisque c'est un squelette inspiré dont l'image a été reprise d'un serpent du musée d'histoire naturelle. Un squelette dont on se demande s'il a mué, donc d'où cette image de fragilité, et un squelette qui se promène d'un monticule de conteneurs à l'autre et qui reprend cette image de la rivière, du paysage chinois, du paysage mental. On a donc une vision à la fois assez méditative et en même temps une vision économique, de l'état économique du monde, un état du commerce mondial. Il y a probablement là aussi un commentaire sur le monde de l'art puisque les œuvres circulent dans ces conteneurs. Et alors, au beau milieu de cette installation, il y a une chose étrange qui est comme en lévitation, mais c'est curieux de parler de lévitation parce que c'est quand même un très gros objet, peut-être un peu gros justement, qui est d'un premier côté une sorte de forme noire qu'on a un peu peine à discerner et qui, quand on se retourne, se révèle être un bicorne. Grâce à la petite rosette qu'on voit, Éric Leray me fait le signe, mais la rosette n'est pas au milieu, elle est
une
sur
cocarde.
Le côté. Petite cocarde, c'est vrai, c'est une cocarde.
Oui, c'est pas une rosette, sur c'est une cocarde.
Vous avez absolument raison. La cocarde donc, du bicorne de Napoléon qui est scannée à partir d'un chapeau du musée de l'armée. Et empire, c'est évidemment cet empire-là aussi. La dimension monumentale a un sens
le bicorne, hein, c'est 5,3 mètres de hauteur, 12 mètres de long et 5 mètres de large. Pour
oui,
donner
alors,
comme ça à nos auditeurs une idée des dimensions.
Mais alors, est-ce qu'on peut aussi oublier les chiffres?
Non, mais c'est juste, il faut bien donner
c'est
des
vrai.
Images
oui,
et
vrai.
On est à la radio, donc donnons quand
vrai.
Même quelques
c'est
chiffres
vrai.
De proportion.
C'est vrai, mais je crois qu'il faut quand même vraiment ne pas résumer l'exposition à
je la précise,
aux chiffres.
Je la résume
c'était,
pas.
C'est
une incise.
Une incise, exactement. Le chapeau de Napoléon, le bicorne de Napoléon, flotte donc au milieu de cette installation et le serpent tourne autour. Et j'allais dire que la dimension monumentale a peut-être, contrairement à d'autres artistes qui ont été invités à Monumenta, un sens particulier dans l'œuvre de Wang Yongping. On se souvient par exemple du serpent qu'il avait montré dans l'estuaire de Nantes, de la grande arche de Noé qu'il avait montré dans la chapelle des Beaux-Arts, qui était très réussie, qui était faite à partir des animaux d'Hérole, incendiés, enfin des animaux qui avaient brûlé, empaillés, qui avaient brûlé dans l'incendie de d'Hérole, rue du Bac. Et au fond, on retrouve tous ces éléments, on retrouve ce rapport à l'animal aussi, qui est très présent dans son œuvre, avec une dimension métaphorique évidente, et qu'il arrive à croiser finalement. Ce rapport au paysage occidental, au paysage oriental, et à nous proposer une grande méditation qui arrive à être à la fois, à avoir à la fois un côté méditatif et quelque chose de très ludique, ce qui, il faut bien le dire, est parfois peut-être un peu excessif. Et le côté jeu, d'ailleurs, est assez intéressant parce que j'ai eu la chance d'aller dans son atelier avant le vernissage de l'exposition, dans lequel on a regardé la maquette de la structure. Il y avait une maquette en volume et il y avait aussi des plans sur les murs. Et les plans montraient les conteneurs de face. Et les conteneurs de face, ça ressemble à un jeu de damier, en fait. Et il y a aussi, je crois, dans cette installation, un rapport au jeu très fort. On peut imaginer peut-être une opposition, là aussi, dans l'opposition entre Orient et Occident, entre le jeu d'échecs de Napoléon et le jeu de Go en Orient. Et on peut imaginer aussi que le grand serpent, le squelette du serpent, est une sorte de grand jeu de jonchet qui menace de s'effondrer à chaque instant, comme une sorte de grand mikado très fragile, château de cartes. Encore une fois, avec ce côté paradoxal qui fait que tout ça est énorme et très solide et qu'il y a quelque chose d'étrange dans le mélange de fragilité et de monumentalité.
Ah ben, je retiens en tout cas, on peut imaginer effectivement beaucoup de choses. Moi, je reviendrai dans un instant sur cette édition Monumenta Wang Yongping. On va écouter l'avis d'Éric Lauré, ou le début en tout cas de son avis.
Ce qui est sûr, c'est une exposition dont on ne repartira pas sans question ou pas sans réponse, selon le côté duquel on se place, puisque...
Je suis curieux des réponses, moi.
Comme l'a expliqué Anaël Pija, effectivement, c'est une œuvre qui fourmille volontiers, qui s'offre volontiers à des dizaines d'interprétations, à la fois en ce qu'elle se réfère à des thématiques, à des lieux communs de l'œuvre de Wang Yongping, le serpent, l'animal, le squelette, la dépouille, on l'a dit, la valeur que peut avoir le serpent du bien et du mal dans la culture occidentale, mais aussi dans la culture orientale. En effet, le serpent prêt à attaquer ou au repos, ouvrant sa gueule en direction du chapeau de Napoléon, qui est un chapeau vide. Par ailleurs, dont Wang Yongping, lors de la visite de presse, expliquait que c'était quand même un destructeur et un bâtisseur à la fois, ce personnage de Napoléon, fascinant tant les Allemands que les Français, que les Chinois, donc il mettait en valeur la réversibilité en quelque sorte de tous les signes, de tous les signifiants en tout cas exposés dans cette monumenta, si bien que c'est pour ça que je dis qu'on ne repartira pas sans réponse, en tout cas, puisque selon comment on veut le prendre, on pourra y lire en tout cas effectivement des métaphores d'ordre politique et économique auxquelles on est invité strictement, directement par les communiqués de presse, par la présentation médiatique qui en est faite. Mais aussi, comme l'a bien dit Anaël Pija, on partira pas sans réponses esthétiques, puisque l'aluminium dont est composé le squelette de ce serpent, dès qu'on lève la tête, répond magnifiquement à la structure métallique du Grand Palais et devient une architecture. Donc il y a un effet, effectivement, là aussi, Anaël Pija parlait de critique d'ordre esthétique, sans doute, à ce niveau-là. En tout cas, on peut jouer avec les formes. Bon. Mais pas non plus sans question, puisque cette surdétermination de réponse ou cette sursignification présente à tout moment semble être par ailleurs en total désaccord ou en opposition absolue avec en tout cas les premières années de Wang Yongping et ce qu'il appelait le Xiamen Dada, inspiré du bouddhisme zen, où il disait à l'époque qu'il privilégiait les façons de répondre sans répondre et de pointer, je cite, c'est un texte qui se trouve en ligne, qui date de 1986, Xiamen Dada est-il postmoderne, de révéler l'absence de signification des questions et des réponses, à la fois en utilisant des actions ou un langage dénué de sens. Bien, donc là, on n'a pas l'impression que ce soit dénué de sens, mais si on le suivait dans la visite de presse à laquelle on a eu droit, enfin en tout cas moi j'étais à celle de 10h du matin, il n'a pas dû dire la même chose l'après-midi. C'était assez amusant puisqu'à un moment il dit « j'ai l'air de dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure
». Et c'est normal.
Et c'est normal, car c'était le contraire. Bon, alors, monumenta, si on le traduit littéralement, le cahier des charges, c'est les choses dont on se souvient. En fait, le monument, et on sait que le monument, c'est souvent aux morts. Donc, il y a un cahier des charges spectaculaire, effet, depuis la première édition, et une volonté pas blâmable, à mon sens, tout à fait bien, de faire venir le public qui ne va pas à blabla habituellement, blabla aux expositions, blabla d'art blabla contemporain, de le faire participer à ce roller coaster, en effet, comme l'a très bien dit Anaëlle, puisque la première chose à laquelle on pense, c'est des montagnes russes.
On aimerait tellement.
Voilà, c'est Jurassic Park, etc.
Tout que certaines des ossements sont presque comme des chaises.
Puis bon, il y a des très jolies couleurs, c'est très pop, ces conteneurs. En fait, ils sont pas. Ils sont repeints ou je ne sais. Donc ça remplit ce cahier des charges, c'est merveilleux. Et à la fois, on se dit, bien entendu, est-ce que c'est encore une œuvre d'art, c'est-à-dire un monument, fut-il aux morts ou aux vivants? Est-ce encore expérimentable comme une œuvre? Bon, comme seconde piste sur laquelle je me tairai pour ma prochaine intervention qui n'aura pas lieu, c'est le vide, en fait, puisque les conteneurs fermés sont aussi des conteneurs vides, il faut se rappeler, qui ont dû transporter des choses et que le squelette lui-même est vidé de quelque chose.
Comme le chapeau l'est aussi.
Et comme le chapeau l'est aussi, et ce qui nous renverrait peut-être du coup au bouddhisme zen.
Et peut-être aussi à la lumière.
Ou HYP.
Et peut-être aussi à la lumière, parce que il y a... Selon le moment où on se trouve dans la nef du Grand Palais...
Et la météorologie.
Et la météorologie. Sous le soleil éclatant qu'on a vu vendredi, il y a des jeux d'ombre portés de la verrière et à la fois des côtes du squelette qui se reportent sur le sol, qui sont très très beaux et tout à fait intéressants et qui donnent un côté presque de lanterne magique au fond, à l'ensemble de l'installation.
Ce n'était pas ça, le cas dans la grisaille d'hier en fin de journée.
Absolument pas le cas dans la grisaille d'hier en fin de journée, qui donnait plutôt un air de port du Havre ou de port de Hambourg, et où les couleurs changeaient totalement. Et d'ailleurs, la manière dont l'éclairage est travaillé le soir montre ça aussi, parce que l'éclairage ne cherchait pas du tout à compenser en fait, la lumière du jour, si tant est que ce soit possible, dans cet endroit. Et donc, Wang Yongping joue avec ça aussi, et ça, c'est une très grande réussite dans l'utilisation de l'espace et dans, vous parliez du rapport au vide, mais si on parle du cinéma, au fond le cinéma et les ombres portées et les projections, on est mardi en fait.
C'est le jour du cinéma, c'est normal.
Si vous prenez l'émission en route, vous n'êtes pas perdu.
Si on ajoute là-dessus la sinusoïde du serpent qui donne une petite touche barbourienne exactement à l'ensemble, en fait on parle d'un film.
Tout est raccord, mais c'est alors pour dire quelques mots quand même, c'est vrai que moi jusqu'à présent, et ça reste quand même le cas, le monumental de Richard Serra est celui qui m'a le plus impressionné et ému. Alors ce qui est intéressant ici avec Wang Yongping, c'est qu'il réussit quelque chose que je trouve quand même très, très fort et très imposant, d'une façon presque opposée, en occupant le plus possible, d'une certaine façon, les espaces, l'espace monumental de cette nef du Grand Palais. C'est vrai qu'il y a, il faut surtout pas s'arrêter au quantitatif. Je donnais juste quelques échelles tout à l'heure, mais en tout cas, il y a une vraie réponse à ce qu'est Monumenta.
Oui, c'est vendu comme ça aussi.
Oui, non, mais
c'est l'art spectaculaire. Il y a de l'effort. C'est comme le sport. Il a fait le 100 mètres.
Oui, il y a du poids, il y a du volume, etc.
Ça coûte
bon,
cher.
Il y a ce que vous pointiez, c'est qu'il a répondu à l'acier par l'acier, parce que les containers, le squelette et le chapeau sont tous en acier. Alors, on nous a expliqué que ce sont des fonderies françaises, etc., etc. Très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce jeu de matériaux qui est important. Et puis surtout, c'est une œuvre, parce que moi je maintiens quand même que c'est une œuvre, qui ne peut pas être interprétée pour une très simple raison, c'est qu'on ne peut pas l'appréhender sous quelque angle que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en avoir une vision globale, on ne peut en avoir que des visions, au pluriel, selon l'endroit où l'on se trouve. Et donc du coup, il y a une vraie expérience de spectateur dans une œuvre, ce qui est quand même pas tout à fait fréquent. Et donc, du coup, forcément, elle est polysémique, puisque selon l'endroit où on se trouve, on ne voit pas les mêmes choses, on ne se pose pas les mêmes questions, on ne se donne pas éventuellement les mêmes réponses, parce que alors le serpent aussi, on n'emploie plus l'expression de serpent monétaire, vous vous rappelez de cette expression-là, qui date des années 80 ou 90. Enfin bon, voilà, c'est une des interprétations possibles de ce serpent. Ce qui me plaît, donc, c'est qu'on a ce choc physique qui peut à peu se mute en choc interrogatif, et voire par moments en choc affirmatif. Donc, et puis, on n'a pas précisé à nos auditrices et auditeurs, les balcons de la Grande Nef sont bien sûr ouverts pour que chacun puisse monter ces grands et magnifiques escaliers pour avoir eu encore une autre vue, encore un autre point de vue, très spectaculaire là aussi et très affirmé comme tel, mais qui n'embrasse pas pour autant. On voit les différentes composantes, si on monte au balcon, effectivement, on voit le chapeau, le serpent et les containers, mais on n'aura jamais la même impression selon où l'on est. On a même là aussi la gueule hein, du serpent, on ne l'a pas évoqué, qui regarde, alors on ne sait pas si elle regarde le bicorne ou si elle regarde la queue du squelette, ce qui fait qu'on serait dans un continuum, finalement, une sorte de boucle.
Oui, un continuum, puisque la circularité, la répétition de l'histoire sont une des visions de Wang Yongping.
Oui, il y a un sens de visite. Hein.
Bien sûr, oui, au hangar à Bananes, où il y avait une mini rétrospective à Nantes il y a 2-3 ans, je crois, et il y avait une carte assez drôle des catastrophes passées et à venir de l'histoire de l'humanité qui formait un dessin, somme toute circulaire, et comme si tout était voué à se répéter. Bon, juste un demi-mot, juste pour se rappeler, quand on dit œuvre ou pas œuvre, il a commencé en étant anti-art, anti-histoire,
ouais.
Ce qui, pour quelqu'un qui expose un chapeau de Napoléon, voilà, bon, je pense qu'il y a de l'humour aussi auquel il faut penser qu'on n'a pas assez dit.
Oui, vous avez raison.
Parce que dans cette réversibilité, il y a un côté déconnant.
Oui, quand on met un bicorne de cette taille, forcément, s'il n'y a pas d'humour, là, ce serait absolument pathétique.
Non, bien sûr, il ne faut pas croire que c'est un commentaire historique très sérieux.
Non, il y a cette part de malice extrême chez Wang Yongping.
Je vais vous proposer une dernière interprétation de son œuvre, qui était une comparaison avec le serpent qui a mangé un éléphant, qui a la forme d'un chapeau de du petit prince, du Saint-Exupéry. Et alors, il a dit qu'il était d'accord. Donc finalement, si on recule assez pour voir le Grand Palais en perspective, peut-être qu'en transparence, on peut voir le serpent qui a mangé le chapeau, qui se trouve à l'intérieur d'un autre chapeau que serait le Grand Palais.
Mais c'est vrai que dans le petit album de Monumental, la citation qui est en exergue, donc un mot de Wang Yongping, c'est « Je crois à l'ouverture infinie d'interprétation comme je ne crois à aucune interprétation ». Donc voilà, nous venons d'en parler 17 ou 18 minutes, mais c'est pour donner envie. Tout dernier mot,
Eric,
rapidement.
Je vais donner une dernière citation de Wang Yongping, oui, beaucoup plus ancienne. Maintenant, il faut qu'il y ait participation ou disparition du public. Alors, l'artiste peut poser son revolver et commencer à sourire.
Monumental 2016, Empire de Wang Yongping, c'est au Grand Palais jusqu'au 18 juin, donc un album édité pour l'occasion, position de la réunion des musées nationaux Grand Palais.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure des chefs-d'œuvre de Budapest, exposition du musée du Luxembourg à Paris. Avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, Boris Charmatz. Nous évoquerons aussi Pénélope, un film de Jacques Villeglé et Raymond Hinz à la galerie Valois. Et puis l'exposition de Sylvie Blocher, les mots qui manquent. Pour l'heure, les mots ne manquent jamais pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute avec Antoine Guillot. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Le musée Mayol, on l'a raconté ici, avait fermé ses portes en février 2015 après que la société qui organisait les expositions eût été placée en liquidation judiciaire. La signature d'un partenariat avec Culture Espace lui redonne vie, nous apprend une brève de l'Obs, le 14 septembre. Une exposition de l'artiste Ben inaugurera les lieux. Mais est-ce vraiment une bonne idée d'y exposer un artiste contemporain ? L'art contemporain est dangereux pour la santé. On vous avait déjà mis en garde il y a 2 semaines avec les émanations de formaldéhyde issues des carcasses d'animaux plongées dans le formol de Damien Hirst. Roxana Azimi a relevé pour M le magazine du Monde d'autres cas semblables tout aussi périlleux pour les visiteurs, voire les artistes. En 2014, écrit-elle, une étude suédoise avait appelé à interdire les pigments à base de cadmium. Selon cette enquête, les peintres participeraient à la pollution du sol en nettoyant leurs pinceaux imbibés de ces peintures. L'Union européenne a envisagé en 2015 de bannir ce type de peinture. Les artistes s'en sont émus, notamment la peintre Julia Brooker, refusant de se voir privée de rouge et jaune pétard. Face à leur mobilisation, l'Europe a reculé. En octobre 2010, poursuit Roxana Azimi, l'artiste chinois Ai Weiwei invitait le public de la Tate moderne à marcher sur un tapis de 100 millions de graines de tournesol en porcelaine. Succès immédiat, et poussière garantie. L'expo a dû être fermée au public quelques jours après son ouverture. Cela n'a pas empêché le musée d'acheter une partie de l'œuvre, ni un collectionneur de payer 560 000 dollars pour un sac de 100 kilos de graines en 2011 chez Sotheby's. Plus près de chez nous, eut beaucoup plus cher, 800 000 euros, tel fut le coût du long chantier de désamiantage de la fée électricité de Raoul Dufy, mené entre 2001 et 2006 par le musée d'art moderne de la ville de Paris. Réalisé en 1937, cet immense panorama de 60 mètres de large avait été floqué pour éviter tout risque de combustion. L'article mentionne enfin une de ces artistes, martyrs de leur art. « Je ne peux plus respirer ni en France, ni en Suisse, ni en Italie, ou en Espagne, ou ailleurs. Respirer ou ne pas respirer est devenu la question », écrit Nikita Saint-Phal en 1993 à son arrivée en Californie, où elle se fait soigner pour insuffisance respiratoire. Depuis les années 1960, l'artiste française souffrait de problèmes pulmonaires liés aux vapeurs inhalées pendant la fabrication de ses œuvres en résine de polyester. Elle en mourra en 2002 à 71 ans. Les musées aussi devraient se méfier de l'art contemporain, potentiellement fatal à leurs finances. Avec 6,3 millions de visiteurs en 2015, difficile d'imaginer. Le Metropolitan Museum de New York, célèbre pour sa collection d'art ancien dans le rouge, il accuse pourtant un déficit de 10 millions de dollars qui pourrait être multiplié par 4 d'ici à la fin 2017. En cause, explique Gaëtan Mathieu dans Télérama, la baisse des revenus générés par les entrées. Chacun donne ce qu'il veut. Or, le rajeunissement du public et l'augmentation des touristes entraînent une diminution des donations volontaires et surtout la course à l'art contemporain, censé être le sésame pour attirer les foules et l'argent des mécènes. Mais si le Met a récemment développé une aile consacrée au 19e et 20e siècle et vient juste d'ouvrir une antenne dédiée à l'art moderne et contemporain dans l'ancien bâtiment du Whitney Museum, il reste désespérément à la traîne. Derrière le MoMA ou le Guggenheim, le coût de ces opérations et leur accueil mitigé mettent en péril ses finances. Le vieux musée ne gagne pas à jouer la modernité, il va devoir licencier et réduire la voilure de ses expositions temporaires. Alors Met qui pleure, MoMA qui rit, comme l'a titré une autre brève de l'Obs, eh bien même pas. Ou alors qui rit jaune, car après le Metropolitan Museum, c'est au tour du Museum of Modern Art, le MoMA donc, d'être confronté à des difficultés financières. Dans le New York Times, Robin Pogrebin, cité par Nathalie Eggs dans le Journal des Arts, révèle que le musée d'art contemporain new-yorkais va lancer un plan de départ volontaire pour les employés de 55 ans et plus, envisageant de prendre leur retraite dans l'année et affichant au moins 9 années d'activité. Le MoMA a déclaré que cette mesure, prise dans une phase de transition, était consécutive au plan d'agrandissement et de rénovation du musée. Il y a une semaine, l'institution annonçait pourtant avoir reçu une donation de 100 millions de dollars du producteur hollywoodien et collectionneur David Geffen, destinée au financement de son extension. Sur 3 étages, les nouveaux espaces de la 53e rue porteront le nom du donateur, de même que la galerie du 4e étage de l'édifice principal. Un autre article du quotidien new-yorkais explique que le MoMA expérimente par ailleurs un nouvel accrochage. Après avoir réorganisé le 4e étage des collections permanentes consacrées aux années 1940-1980, le musée reconfigurera les galeries d'art contemporain du 2e étage dès le mois de juin. Elles seront divisées en 3 espaces, chacun d'entre eux étant consacré à un artiste. L'article ne dit pas quelles précautions seront prises pour la santé des visiteurs, celle des musées étant déjà largement compromise.
Merci Antoine Guillot pour toutes ces mauvaises nouvelles. Vous ne voulez plus qu'on aille dans les musées, c'est bien ça qu'on a compris. Alors dans les ateliers, Anaëlle, vous n'y pensez pas, enfin.
Non,
c'est pas très sérieux.
C'est terrifiant, mais d'ailleurs il y a beaucoup d'artistes qui ont même dû changer de transformer leur œuvre au nom de leurs allergies.
On parlait de Modigliani qui a dû arrêter la sculpture, hélas.
Jours, exactement. Joachim Nordström qui a dû arrêter la peinture et qui s'est mis à faire exclusivement des travaux sur papier. Enfin, il faut bien que l'art soit un peu dangereux quand même.
Vous avez dit artiste, Ai Weiwei. J'ai pas compris j'ai quand même pas compris l'enchaînement de ces termes. Enfin bon, Éric Loret.
Non, mais c'est vrai. Enfin, on connaît tous des artistes qui sont obligés de mentir à leur marchand de couleurs en disant non, je vais l'utiliser le produit sur le balcon. Vous inquiétez pas avec 3 casques. En fait, ils s'en mettent plein les narines et ils sont intoxiqués. Mais il n'y a pas que l'art contemporain. La poésie, ça rend complètement alcoolique.
Ouais.
La musique, ça fait mal aux articulations. On finit qu'un doigt ressort quand on fait du violoncelle.
Quand on s'étouffe pas avec son vomi.
Non, mais ça dépend de la musique classique ou pas.
Oui.
Ben voilà, la cocaïne, c'est très, tout ça c'est très dangereux.
L'art c'est dangereux.
Ben oui.
Bon,
c'est le principe romantique de l'art.
Est-ce qu'on va continuer cette émission, allez savoir. L'art c'est dangereux, parfois on n'arrive pas au bout, parfois on n'arrive pas au bout d'œuvre. On veut faire un film et puis pour des tas de raisons, c'est très 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 compliqué. C'est l'histoire que va nous raconter peut-être Anaël Pijat.
Absolument. C'est l'histoire aussi d'un anniversaire que je voulais vous raconter, celui d'un jeune homme de 90 ans, célébré par sa galerie, la Galerie Valois. La scène se passe rue de Seine, au cœur du 6e arrondissement à Paris. Et la Galerie Valois vient d'ouvrir un nouvel espace. Et elle célèbre l'anniversaire donc de Jacques Villeglay dans ce nouvel espace, qui n'est pas n'importe lequel, qui est l'ancienne librairie Fischbacher, mythique endroit, mythique librairie d'art de la rue de Seine. Dans cet endroit est montré un projet très particulier, Pénélope, qui est, comme vous le racontiez Arnaud, un film, enfin un projet de film, une sorte d'œuvre qui a pour titre une sorte de, enfin, évidemment le titre de Pénélope fait référence à cette chose totalement inachevée, commencée par Jacques Villeglay et Raymond Hinze, deux vieux camarades qui se sont rencontrés en 45, je crois, à l'école d'art de Rennes, nés tous les deux en 1926. Donc commencée par ces deux vieux camarades en 1950, assez en avance par rapport à tous les artistes de leur génération qui, quelques temps après, se sont mis à s'exercer, enfin à faire des expériences avec des caméras. Évidemment, ils ne sont pas les premiers à avoir fait des films expérimentaux. Toute la génération des Man Ray, Survage, etc. avant eux s'y est mis, y compris avec des films abstraits, évidemment. Mais Pénélope, c'est une chose très particulière. En fait, ils ont voulu d'abord construire leur propre caméra qu'ils ont intitulée l'Hypnagogoscope. Ça se passe de commentaires. L'hypnagogoscope, c'est une caméra qui est munie d'un verre cannelé qui passe sur des dessins, sur des collages, sur tout un ensemble de travaux préparatoires qu'on voit à la galerie Valois, qui sont absolument magnifiques, qui ont quelque chose de très maticien et de très méditerranéen, ce qui est assez paradoxal pour ces deux Bretons que sont Raymond Hinze et Villeglay. Et ils ont donc on voit Pierre Schaeffer s'est intéressé à ce travail un peu plus tard. En le faisant remonter, on voit en fait des bribes de choses des bribes de travail dans cette exposition, et ça forme en même temps un ensemble d'une immense poésie et d'une immense, enfin d'un très grand romantisme aussi, puisque c'est la toile de Pénélope qu'on voit en cours, qui est à la fois tissée et détissée, qui est un peu construite mais pas complètement quand même, et voilà, et qui aurait vraiment sa place, je crois, dans un musée, enfin qui est vraiment une chose qui est à la fois une œuvre et un document de travail tout à fait passionnant. Il y a un livre qui accompagne l'exposition qui a été publiée en 2012 par la galerie et les éditions du Regard, qui raconte de manière très amusante, dans un entretien donné par Jacques Villeglay, la manière dont le film a été réalisé dans un petit appartement de la rue de l'Ambre, dans lequel ils ont mis à contribution
à Montparnasse,
dans lequel ils ont mis à contribution les amis lettristes, mais ça se passe aussi sur la terrasse de la maison familiale en Bretagne de Jacques Villeglay, où là c'est la famille et les parents qui sont mis à contribution pour tenir la caméra, actionner les morceaux de verre et participer à ce grand travail. Si on remonte la rue de Seine dans le sens inverse des voitures, on pouvait voir au moment du vernissage une grande inscription au sol faite par Jacques Villeglay dans un de ses ABC alphabets qu'on connaît bien, qui disait Pénélope à Quimper ou le retour d'Ulysse, et qui conduit, il faut quand même, parce que l'exposition se termine et il faut vite aller les voir, qui se termine dans l'espace initial en fait de la galerie, enfin pas initial mais l'autre espace de la galerie Valois. Ça s'appelle Opération Quimperoise, et là on y voit un ensemble d'affiches lacérées qui datent de 2006. Je vous passe les détails, c'est le portrait d'Ulysse qu'on découvre.
Ah, et c'est jusqu'à quand alors? Parce que j'ai pas les dates, moi.
Et c'est jusqu'au 13 mai, donc il faut vraiment se dépêcher.
Ah oui, il faut vraiment se dépêcher.
Absolument.
Bon, jusqu'à vendredi, donc, pour aller à la galerie Valois. Jusqu'à quand pour aller au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis? 30 mai, ce qui nous laisse un tout petit peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on peut y voir, Eric Loret ?
Il ne faut jamais dire ça, parce que sinon personne ne va y aller.
Donc, allez-y tout de suite.
Allez-y tout de suite.
Enfin là, c'est un peu tard pour y aller, mais attendez demain matin.
Voilà. Eh bien, au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, qui est un ancien couvent de Carmélite, extrêmement joli.
C'est très beau.
En province, ouais. Il y a un très beau jardin. Si vous allez au premier étage, comme dirait Gainsbourg, dans le...
Il n'est pas le seul à le dire, mais bon.
C'est dans l'histoire de Melody Nelson. Si vous montez les escaliers, donc vous vous retrouvez dans les cellules démoniales, où il y a des portraits de mères un peu durs, et des sentences mystiques, surtout sur toutes les murs, parce que c'est un ordre mystique. Il y avait Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, chez les Carmélites. Vous verrez que c'est Sylvie Blocher, l'artiste française, a modifié par des masques ses sentences pour essayer les... Parce que ce sont des sentences pas très drôles en général, c'est plutôt « fais ceci, fais cela ». Donc là, en masquant des mots, elle les a ouverts vers d'autres perspectives un peu plus rayantes. Et si vous entrez dans les cellules, au milieu des portraits, tout d'un coup, vous voyez Édouard Louis, l'écrivain, en train de vous murmurer sur un écran vidéo géant un texte. Alors vous approchez, vous tendez l'oreille, c'est assez beau. Et puis dans d'autres cellules, il y a d'autres personnes, comme ça, jeunes gens, jeunes filles, moins connues, qui murmurent aussi des textes. Alors quels sont ces textes ? L'œuvre s'appelle État d'urgence. Ce sont des textes qui ont soit valu la mort à leur auteur, soit des textes de gens qui auraient mieux fait de fermer leur gueule, comme Olympe de Gouges, par exemple, ou Jean Améry, qui n'a pas été tué sinon par lui-même, mais qui était un écrivain défenseur du suicide, ou bien un blogueur bangladais assassiné. Donc ces textes-là nous ramènent à la mort de leurs auteurs, donc ils sont dits un petit peu outre-tombe par ces personnages. Et dans des cellules démoniales, ça tombe bien, parce que outre-tombe, vu qu'il n'y a que Dieu à qui s'adresser dans ces cellules, ça marche assez bien. Vous descendez, vous allez, ou à l'envers, vous allez à la chapelle, donc qui est le bâtiment... qu'on voit en premier lorsqu'on entre. Et là, dans cette chapelle vidéo, qui en fait maintenant est un lieu dévolu aux expositions vidéo, vous avez une grande installation qu'on avait déjà vue au MUDAM du Luxembourg, qui s'appelle Speeches. Et là, apparaissent sur 5 écrans géants des personnes à moitié nues, un peu androgynes, plutôt jeunes, dont le corps est maquillé de façon à ce qu'on ne sache plus très bien à quel... race, entre 25 guillemets, elles appartiennent, donc ils sont mi-blanc, mi-noir, mi-métis, et on écoute ce qu'ils disent, c'est en anglais en général.
C'est 3 mi, hein, donc.
Voilà, et bah oui, c'est comme le Ricard. Ouais. Et on se dit, ah, c'est vachement bien, ils parlent d'actualité, en fait, mais ils sont en train de commenter ce qui se passe aujourd'hui en donnant de vraies solutions politiques. Non, en fait, pas du tout. Il y a un extrait du manifeste du Parti communiste, un discours d'élection d'Obama quand il voulait encore faire des trucs, un rapport de la Commission des droits européens sur ce qu'il faudrait faire dans les prisons, etc. Donc tout ça est transformé, chanté, en une sorte de prière qui sont absolument magnifiques. Et il y a une dernière vidéo, j'irai très vite. Alors là, ce sont des adolescents qu'elle a filmé dans une, non pas une favela, parce qu'on ne dit pas comme ça à São Paulo, mais dans un quartier défavorisé de São Paulo au Brésil, qui défilent juste comme ça devant sa caméra. Et l'histoire drôle, c'est que l'œuvre avait été commanditée par la mairie de São Paulo pour ses quartiers nord. Mais la mairie avait dit, mais allez plutôt filmer des gentils lycéens du centre-ville un peu moins chiants. Elle dit, non, je vais quand même là, et elle les filme, et la mairie refuse au motif qu'ils sont trop impérieux et ont l'air trop arrogants. Ce qui est voilà une belle histoire, puisqu'elle veut décoloniser le moins Sylvie Blocher. Donc voilà, un beau petit voyage vidéo dans des cellules démoniales à Saint-Denis, ça ne se rate pas.
Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis jusqu'au 30 mai pour découvrir ces œuvres de Sylvie Blocher. Dans quelques minutes, nous allons parler des chefs-d'œuvre de Budapest, c'est au musée du Luxembourg à Paris. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute cette semaine, nous la passons avec le danseur, chorégraphe, directeur du musée de la danse, Boris Charmatz, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Boris Charmatz, des liens très, très importants vers le monde des arts plastiques, que vous avez déjà évoqué Tino Segal précédemment cette semaine. Il y a une évidence de cette porosité depuis de longues années, cet heureux entre danse et art plastique, beaucoup plus qu'entre théâtre et art plastique. Ça a eu beaucoup de retard, ça va mieux maintenant si je puis dire. Comment vous l'expliquez finalement ce lien ? Parce que par exemple, dans cette émission, les critiques d'art plastique, ils vont voir de la danse, mais ils vont jamais au théâtre. J'exagère un peu. Il y a vraiment des allers-retours entre ces deux disciplines.
C'est dur à expliquer. Je crois que c'est... Il y a plein de raisons. Hein. Moi, j'ai fondé ce musée de la danse donc, que je dirige aujourd'hui à Rennes. Ça a été fondé en 2009, mais c'est une idée qui est née avec Angèle Legrand. C'était ma collaboratrice de l'époque. C'est né dans les années, je sais pas, 2004-2005. On a commencé à parler de ça, à chercher autour de cette question-là. Et avant, on avait déjà fait des expositions qui mêlaient performance, art visuel, etc. Et d'où ça vient, je sais pas, mais je crois qu'il y a quand même ces dernières années, quelque chose qui a changé, qui fait que les musées se sont transformés énormément. Ils se sont posés des questions de qu'est-ce que ce serait la collection, comment intégrer le mouvement, la pensée, l'art du temps, je dirais, dans le musée, comment ils avaient déjà beaucoup évolué, de la peinture à la sculpture, à l'installation, au film. Et puis, avec le sentiment d'avoir raté peut-être l'histoire de la performance, hein, dans les années 60, 70. Et tout d'un coup, les musées se transformant s'intéressent à la danse et réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des danseurs qui peut-être étaient considérés comme intellectuels, considérés comme non-danseurs ou comme ne répondant pas à l'appel du spectacle et qui du coup, pas à l'appel du public, ça, qui tout d'un coup trouvaient une place dans les musées et qui leur permet de faire un art qu'ils avaient peut-être du mal à affirmer ou à trouver une place sur les scènes, je dirais, habituelles. Et du coup, c'est quelque chose de, il se passe quelque chose de très nourrissant pour tout le monde. C'est comme un espace mental qui s'est déplacé où tout d'un coup, le monde de l'art, l'art visuel, permettait d'accueillir une danse qui était peut-être considérée comme intellectuelle, qui l'était pas, et qui permettait au musée de repenser son fonctionnement, repenser son mode de présence entre les artistes, l'art, les visiteurs, avec un, et c'est très horizontal la danse, parce qu'en fait, surtout dans un musée, les danseurs sont de plein pied avec les visiteurs, donc il y a une grande perméabilité, et bizarrement, on a ramené au sein du musée le travail, parce que les danseurs y travaillent, la parole, et finalement une dimension discursive que la danse a amené au sein des musées. Alors qu'on pourrait dire que la danse, c'est le corps, c'est l'expressivité sans parole, etc. Et au contraire, il y a eu tout un travail très riche entre corps et parole. Donc ça, c'est une des pistes, mais je crois qu'il y en a plein. En tout cas, c'est très, y a beaucoup d'allers-retours aujourd'hui entre la scène, entre les centres d'art, les musées, entre les arts visuels et la danse. Je crois que c'est juste très riche. Et je pense quand même que, bon, on a peut-être une image du théâtre un peu peut-être installée, mais il y a quand même beaucoup de jeunes collectifs, de jeunes performeurs, acteurs. Moi, je travaille, par exemple, avec Marlène Saldana. C'est une actrice, performeuse. Mais elle est à la fois... Elle est dans ma prochaine pièce qui s'appelle Danse de nuit. Elle danse comme une tarée. Et en même temps, on peut la voir dans Les Malheurs de Sophie, aujourd'hui, dans un film de Christophe Honoré. Quoi. Donc, il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment beaucoup de passerelles. Et c'est tant mieux.
Ouais. Et qui sont les plasticiens que vous, Boris Charmat, vous émeuvent, vous intéressent particulièrement? J'imagine que la liste doit être longue.
Oui, c'est ça. C'est très dur d'en citer quelques-uns. En ce moment, par exemple, on prépare pour la Biennale des Ateliers de Rennes un travail avec Jean-Pascal Flavien qui va installer une maison dans le jardin du musée de la danse dans lequel un danseur va accomplir des gestes la nuit. Donc, c'est sur le sommeil du danseur. Donc, voilà, je travaille avec lui. On travaille avec lui. Donc, tout d'un coup, il y a des contacts, mais c'est... J'ai pas envie de citer trop de gens. C'est vrai que je travaille beaucoup en ce moment avec Ernout Mick. On échange beaucoup. Donc du coup, j'ai envie de parler de son travail, voilà. Mais je suis assez ouvert, quoi. J'ai pas envie de m'arrêter à un endroit.
Et les grands anciens, alors peut-être ceux avec qui vous ne pourrez pas travailler.
Ouais, c'est dommage.
Qui compte.
Parce qu'il y a le bien, c'est que les grands anciens disparus, on peut toujours travailler avec eux, c'est justement, vrai. Parce qu'ils peuvent nous habiter, nous hanter. On croit y échapper, puis ils reviennent. Là, dans le solo de Tino Segal, justement, à la fin, on fait pipi sur scène. C'est pas évident, c'est pas facile. Et c'est à la fois une sorte de dommage. C'est une pièce qui date des années 2000, qu'on reprend aujourd'hui, que je danse aujourd'hui. C'est à la fois un hommage à Jérôme Bell, fin du XXe siècle, on va dire. Et puis, c'est La Fontaine de Duchamp, c'est plein d'autres choses. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Il y a des artistes morts, décédés, anciens, mais ils peuvent réapparaître de plein de manières dans le travail. Là, dans ma dernière pièce, dans la prochaine pièce qui s'appelle Danse de nuit, on travaille, on fait plein de gestes. Puis tout d'un coup, on est dans l'espace public la nuit. On reprend les gestes des Vigipirates qui nous hantent. Hein, on n'a pas d'armes, on n'a pas les bottes de policiers, Mais finalement, on passe de ça à tout d'un coup au dessin de la caricature politique de Reiser, de Charb aussi. Mais je dirais Reiser, voilà, il est décédé d'un cancer. C'est pas un plasticien, hein. c'est un caricaturiste, c'est un humoriste, en même temps enfant pour le coup. Pour moi, Saad, Reiser, c'était, je dirais pas au même niveau, c'est bizarre de dire ça, mais quelque part, oui, c'était dans la bibliothèque, c'était au même endroit. Et c'est pas un plasticien, Reiser. C'est un dessinateur, c'est un caricaturiste, mais au mur chez moi, bon, j'adorerais avoir des œuvres de grands artistes comme ça, mais j'aurais un dessin de Reiser, ça m'irait aussi.
Nous poursuivons cette dispute consacrée exceptionnellement ce mardi soir aux arts plastiques. Demain, ce sera cinéma avec l'ouverture du Festival de Cannes. Donc, arts plastiques, et nous nous rendons au Musée du Luxembourg à Paris pour y découvrir l'exposition consacrée au chef-d'œuvre de Budapest. Je n'ai pas pris de cours de hongrois récemment, alors je ne sais pas si l'une ou l'autre vous saurez prononcer le nom du musée qui, fermé pour cause de rénovation, permet à Paris d'accueillir cette exposition des collections de Budapest. Ça vous fait rire, Anaëlle, vous voulez tenter?
Alors, en fait, je me suis renseignée.
Allez, comment ça se prononce?
Près d'un camarade qui parle hongrois.
Alors, le...
Il m'a dit que SZ, c'était « ce » et que le S, c'était « che ».
D'accord, donc je me débrouille avec ça pour dire Sepmvesesti. Non, j'y arriverai pas. Pardon.
Vous voulez pas dire Musée des Beaux-Arts de Budapest plutôt, non?
Oui, mais bon, j'aurais bien aimé. Donc ce musée et la Galerie nationale hongroise ont donc choisi le Musée du Luxembourg pour présenter ensemble un ensemble de 80 et quelques peintures, dessins, sculptures de très grands noms de l'art du Moyen-Âge aux années 50, 60, ouais. Pour cause de baisser de rideaux de fer qui arrêta les collections hongroises de s'enrichir. Il y a quand même aussi quelques œuvres emblématiques de l'art hongrois. On commence avec vous, Éric Loret.
Bon, ben, chef-d'œuvre de Budapest, on n'est effectivement pas déçu, parce que c'est un orgasme pendant environ une heure devant chaque tableau. Évidemment, chef-d'œuvre, ça veut rien dire dans le vocabulaire esthétique contemporain, mais enfin, pour l'art classique, ça se justifie. Oui. C'est le capo laboro, l'œuvre la plus techniquement réussie de l'atelier, quoi. Hein. Alors, c'est pas tout à fait le cas ici, je trouve, parce que, enfin, bon, ce genre d'exposition où il y a rien à dire sur l'installation ou les rapport entre les œuvres. Simplement, vous avez un mini-Louvre, voilà, un best-of du mini-Louvre de Budapest. Et est intéressant pour moi par le côté monstrueux, justement, où l'amour que je peux avoir et que d'autres, je pense, comme moi, ont du détail, c'est-à-dire que devant chaque tableau, séparément, on peut se plonger dans le geste, l'intimité, la folie, peut-être, d'un créateur. Alors, il y en a un qui est dingue, de fait, dans le tas.
Saurez-vous le retrouver?
Oui. Le catalogue qui nous explique très bien, effectivement, que Messerschmitt, qu'on connaît bien au moins de nom, était devenu complètement timbré. Et il faisait des portraits un petit peu d'hystérique, enfin des sculptures, dont un homme qui pleure comme un enfant. Et les gens qui allaient le voir trouvaient qu'il était un petit peu bizarre. Mais donc, c'est moins pour retrouver des canons que pour retrouver la divergence dans le canon sont, qu'on peut, voilà, qu'on va s'émerveiller devant chacun de ces tableaux, donc qui couvrent, comme vous l'avez dit, une grande partie de l'histoire de l'art, avec de l'art allemand du Moyen-Âge en particulier. Il y a des Altdorfer absolument sublimes. Il y a toute une partie que j'appelle moi monstrueuse, c'est-à-dire c'est les copies d'impressionnistes ou de symbolistes version Est. Enfin, copie, pas tout à fait, parce que pour le symbolisme, c'est après la réunion de l'Autriche et de la Hongrie. Donc, somme toute, la sécession hongroise est une forme de la sécession autrichienne, mais moins viennoise, mais moins, moins connue. Bon, il y a des, il y a un tableau qui marque tout le monde quand on, voilà, quand il passe devant, c'est l'alouette de pâle signée Merch. Si je suis les consignes d'Anaël Pijat, vous avez dit que le S c'est cheux, hein, c'est
ça?
Je peux
comprendre.
C'est cheux et SZ c'est ze. Donc l'alouette, ben, en bas, en fait, c'est du Millet ou du pré-raphaélisme en quelque sorte.
Ah,
et en
poserait Cabanel.
Voilà, ou aussi avec un morceau de Cabanel au milieu, ou Bougereau. Ouais. Voilà, ouais. Donc il y a un petit bout, il y a un nu académique, Cabanel-Bougereau, plongé dans une verdure empruntée au pré-raphaélite avec un ciel impressionniste. Mm. Donc on est dans un éclectisme, et puis une alouette évidemment. J'ai oublié de
le dire. Bah oui.
Cependant d'ailleurs que les blés au loin ressemblent à la falaise d'Étretat, si on regarde d'assez près. C'est, ouais. Donc la structure des volumes est assez amusante.
Et des proportions entre le corps de la dame et celle des fleurs aussi.
Oui, oui, non, mais tout est bien dans ce tableau, dans ce tableau monstrueux. De la même manière, par exemple, que Le Printemps, Frühling de Franz von Stuck. Alors là, je peux le dire, parce qu'il n'a pas d'umlaut, donc il s'appelle Stuck et non pas Stuck, comme on pourrait le croire. Bien, Ce Printemps, elle a quand même l'air d'être phtisique au dernier stade. Voilà. Et donc 1902, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est chef-d'œuvre, mais en même temps, un petit peu comme au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. C'est chef-d'œuvre déviant.
Oui, mais enfin,
pas tous, hein.
Oui, parce que vous avez oublié une quantité de noms que,
oui,
sur lesquels.
Sont pas,
non, mais allez, Anna, elle a un petit peu avant de venir vers vous, Eric. Anna Pijat.
Enfin, non, c'est l'intérêt qu'on peut y trouver. Oui. Mais bon, voilà, il y a d'autres façons de le regarder.
J'ai quand même.
Mais moi, j'adore.
J'adore aussi. J'ai une micro-réserve quand même. C'est que cette exposition, il y a quand même un récit dedans qui fait un peu défaut, en fait, je trouve. C'est-à-dire.
L'historicité de la constitution.
Exactement, de toute l'Europe pendant 1000 ans et de toute collection d'art.
Ouais.
Et ce qui est assez intéressant,
surtout qu'on sait que ça vient surtout de la famille Esterhazy,
voilà,
qui est une famille extrêmement importante, puissante dans l'Empire austro-hongrois.
Et dans l'Empire austro-hongrois, en fait, les œuvres des Habsbourg sont à Vienne, et donc à Budapest, il reste les œuvres des grandes familles privées. Mm-hmm. Et il y a quand même toute une histoire de ces deux musées qui est assez intéressante, puisque deux musées il y a. Un musée des Beaux-Arts qui est créé en 1871... par une vente à l'État d'un membre de la famille Esterhazy, d'une partie de la collection. Puis, il y a un musée qui est construit. Puis, en 1957, il y a une partie qui est détachée pour faire une galerie d'œuvres hongroises. Mmh. Et en 2012, les deux morceaux sont de nouveau réunis. Et en ce moment, le musée est en travaux et c'est pour ça que les collections circulent. Toujours est-il que moi, je suis un peu restée sur ma faim dans le côté histoire des collections, en fait. Mmh. Ensuite, je suis absolument d'accord, évidemment, pour dire qu'on va de réjouissance en réjouissance. Alors, comme vous avez commencé par la fin, je reprends par l'autre bout. Je voulais saluer, oui, Altdorfer et puis Dürer aussi. Mais je voulais souligner quand même aussi le choix extrêmement resserré des œuvres par le commissaire, extrêmement réussi et plein d'esprit. Parce qu'il y a aussi plusieurs tableaux qui sont quand même très, très drôles. Et pour aller quand même un peu à la fin de l'exposition aussi, le tableau de Böcklin dans lequel on voit un centaure qui va faire réparer son sabot à la forge.
C'est beau comme du Wan Yongqing.
C'est
en fait,
quand même assez phénoménal. Sous les yeux médusés de deux passants, et enfin d'une famille de paysans en fait, avec une dame qui porte un bébé dans une sorte d'écharpe de portage en peau de léopard, qui est vraiment...
Tout ça est très normal.
Et tout le monde trouve ça absolument normal. On peut parler aussi du tableau de Tintoret, d'Hercule qui chasse Faunus du lit d'Omphale, qui est assez drôle aussi, qui est une sorte de grande farce, puisque l'histoire...
Une scène de boulevard, quoi.
Voilà, exactement. Donc Hercule a mis les habits de la fille dont il est amoureux, Omphale, dort dans son lit, ils ont échangé, et là, craque Faunus Vénus vient chercher Omphale et qui y trouve Hercule.
Pas de bol.
Donc, ça, c'est donc on est d'accord, c'est une expo bizarre.
Donc ça c'est très étrange.
Ils sont bizarres, c'est hongrois.
Ça c'est très étrange, au moins c'est aussi bizarre que la prononciation de leur...
musée...
mot, voilà. De
Artemisia Gentileschi avec son introduction du petit bout de bois dans l'oneil, comme aurait dit Ubu.
Qui est assez quand même très bien. Aussi. Et puis, il y a des merveilles, comme par exemple le portrait de jeune homme de Dürer, dont on se demande si apparemment si c'est celui de son frère, si c'est le portrait de son frère, qui a été un temps attribué à Holbein, et où, qui montre une sorte de modelé ahurissant.
Dingue.
Qui est d'une abstraction totale aussi, puisqu'il y a ce fond rouge très étonnant avec l'ombre de la tête du jeune homme qui contraste avec à la fois le modelé de son visage et en même temps l'étoffe de son manteau, le col de fourrure, la coiffure qui lui aplatit les cheveux, l'espèce de petit bandeau qui retient sa chevelure et ce sourire en coin qui est très mystérieux. Donc ça, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre à proprement parler. Il y a aussi, moi, j'ai été complètement fascinée par Hans Hofmann. Hans Hofmann fait des tableaux, des aquarelles qui montrent des insectes dans un esprit un peu de cabinet de curiosité. C'est des petits formats d'une précision folle et qui sont très, très drôles parce qu'il y a la libellule déprimée, alors qu'il y a vraiment l'antenne basse. Elle a l'air désespérée.
C'est le signe de la déprime chez la libellule.
Elle porte pour titre, elle a pour titre la libellule déprimée, mais il y a une petite grenouille.
Voilà. La nature.
Exactement. Mais il y a une étude qui, je trouve, aurait vraiment dû s'appeler la grenouille surprise, parce qu'elle a l'air.
C'était son premier titre, je crois. Mais l'histoire n'en a pas retenu.
Elle a l'air très étonnée. Et dans une autre partie de l'exposition qui est assez remarquable et à laquelle j'ai été très sensible, qui s'appelle Caractère, il y a un autre tableau de Hans Hofmann, qui est le portrait d'un vieil homme. Qui, je dois dire, ressemble à un insecte, qui a la précision des rides, des petits morceaux de peau, des cheveux. Et en fait, cette partie, donc du coup, qui est formidable, comme les aquarelles d'insectes. Là, c'est un dessin. Mais j'ai trouvé très réussi aussi cette section de caractère, parce qu'en gros, on a compris que le fil de l'exposition est chronologique. Mais dans tous les musées qu'on voit dans le monde, dans tous nos voyages, on a des échanges particuliers, des conversations particulières ou des souvenirs particuliers avec des figures. Moi, je garde un souvenir absolument fulgurant d'un fragonard, une jeune fille à la lettre au musée de Washington, par exemple. Là, il y a une salle qui est réservée aux portraits attachant visiblement de cette collection. Il y a parmi eux une jeune fille endormie, anonyme, qui est située à Rome en 1610, je crois.
Oui, auteur anonyme.
Qui est auteur anonyme, absolument. Et sujet anonyme aussi. On ne sait pas si c'est un portrait, une mélancolie, une madeleine.
Absolument fascinant.
Absolument sublime, avec une sorte de nature morte dans les cheveux. Sa robe se mélange avec... C'est de parapet sur lequel elle s'appuie. Voilà, c'est une approche très sensible.
Notre enthousiasme est total, on l'a bien compris. Une dernière image à Éric Leray.
Moi sur caractère, j'ai eu un vague doute parce que pour moi, c'est une exposition où le plaisir, c'est un éloge du fétichisme, un petit peu comme les impressionnistes jamais vus qui étaient au musée du Luxembourg l'année dernière. Donc là, mais on vous dit effectivement, souvent, on reste scotché sur des portraits, mais il faut qu'ils soient égaillés dans un parcours entier. Là, c'est tous rassemblés, ça fait un peu bizarre. Mais enfin, bon, la femme de Fuseli, c'est formidable, celle de Baudelaire aussi. Non, voilà, éloge du détail. Moi, je voudrais savoir pourquoi. Dans la nature morte de Eda, il y a un bout de papier avec un truc écrit au milieu des huîtres. Si quelqu'un peut nous écrire pour nous dire,
expliquer. On va s'arrêter sur cette question.
Vous voulez pas que je vous parle des kystes?
Non, si j'aimerais bien, mais on en a plus.
Les kystes chez Liberale da Verona, vous y penserez en regardant le tableau.
D'accord, pensez aux kystes, vous penserez à Eric Leray.
Parce qu'il a inventé le modelé, il en fout partout, il est tellement content qu'après, on dirait des kystes au bout d'un moment.
Chef-d'œuvre de Budapest, c'est au musée Luxembourg à Paris jusqu'au 10 juillet, catalogue édité. Par les éditions La Réunion des Musées Nationaux et Grand Palais sous la direction scientifique, on ne l'a pas dit, de Laurent Salomé et Cécile Maisonneuve qui sont les commissaires de l'exposition.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et nous concluons cette émission avec le jeu de la disputée en commençant par un retour jeudi hier soir, jeu que je fais avec Hugo Boursier ce soir. Hugo, qu'est-ce qu'on gagnait hier?
Vous avez gagné des invitations pour le spectacle Nécessaire et Urgent de Annie Zadek, mise en scène et scénographie signée Hubert Collas, le vendredi 13 mai à 20h au Théâtre de la Colline à Paris. Et la question était combien de questions sont posées par Annie Zadek dans ce spectacle? La réponse 524.
Oui, on aura compté. Et ce soir, on fait gagner donc des places de cinéma pour aller voir le film L'Ange blessé d'Emir Baygazine qui sort demain et dont on parlera demain soir dans l'émission. La question est...
À quel peintre le titre de ce film renvoie-t-il ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anaëlle Pigeat, Éric Loré, Hugo Boursier, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Les informations sur cette émission sur le site franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission. Une dispute possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo. Prise de son ce soir, Pierrick Charles, réalisation Daniel Finot. Demain, exceptionnellement donc, cinéma, le mercredi, mais ce sera pour l'ouverture du Festival de Cannes. Je serai en compagnie d'Émilie Barnett et Antoine Guillot. Nous parlerons de Café Society de Woody Allen, de L'Ange blessé d'Emir Baygazine. Nous évoquerons aussi plus rapidement Red Amnesia de Wong Xiaoshuai et Sisters de Jason Moore. Nous retrouverons, comme l'année passée, Émilie Chaudet qui assurera la revue de presse culturelle de la dispute pendant la cure cannoise d'Antoine Guillot. Nous découvrirons les choix du chorégraphe Boris Charmat, invité à la dispute. Il y aura un nouveau cadeau à gagner. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.